un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bébé, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, puis vas-y.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Le pigeon comme celui dont on dit qu'il est idiot ne voit pas de hiérarchie entre un extrait de journal télévisé, la voix d'un homme qui souffre de vivre, des formules de communication politique, un autoradio jouant une musique dansante, il entend. Tout cela vient à lui. Le pigeon met les paroles à égalité des autres roucoulements. Dans le quartier du Pigeonnier au nord d'Amiens, on n'a pas totalement détruit les habitats des oiseaux pour ériger les habitats des hommes, on a imaginé qu'ils puissent vivre ensemble. Tout comme on a imaginé donner des noms de grands compositeurs aux tours qui composent ces cités. Sur le papier, c'est beau comme une chanson de Pierre Perret, dans le réel, ça pique. Demandons aux pigeons de voyager dans les tours avant qu'elles ne tombent et de nous restituer avec l'oreille sublime de l'idiot ce que l'on peine à entendre de ces endroits des banlieues françaises. Karim Belkacem, bonsoir.
Bonsoir.
Votre dernière création est un mélange d'art visuel, d'art sonore, de concert et d'un solo bouleversant porté par le comédien Farmi Garbea. Bon, on pourra voir 23 rue Couperin jusqu'au 19 mai prochain au Théâtre de l'Athénée à Paris et probablement en tournée en France, du moins on l'espère. Puisque vous arpentez, je crois que c'est vous, le plateau pendant ce moment de performance, j'ai dit qu'elle était pluriartistique, est-ce que vous pouvez nous le décrire ce plateau de théâtre ?
C'est un plateau sur lequel j'ai voulu ériger en personnage principal l'architecture de ma cité d'enfance que j'ai reconstruite à l'échelle sous forme d'une maquette. Et c'est une maquette qui est construite avec quelque chose qu'on pourrait appeler des caplas un peu plus grand que des caplas standards, mais reconstruite en caplas. Donc ça reproduit à l'échelle les 10 bars qui constituent mon quartier d'enfance. Et voilà, donc c'est un plateau qui n'est pas traversé par beaucoup d'êtres humains pendant une grande partie de la performance. Voilà, c'est un projet qui met au centre l'architecture.
Vous, parfois, vous êtes une sorte d'humain fantôme qui vient se promener à l'intérieur de ces cités reconstruites en bois. Vous le dites, c'est une échelle assez particulière parce que vous êtes d'un seul coup un tout petit peu plus grand que ces grandes barres d'immeubles. Ça vous fait quoi ?
Ce qui est important de préciser, c'est que je me promène sur le plateau et même dans tout le théâtre avec un masque de pigeon. Donc la figure qu'il y a sur le plateau, c'est une figure donc qui est la rencontre entre moi et ma sensibilité d'être humain et aussi un point de vue qui serait pour moi celui du pigeon. Donc quand je suis debout à côté des barres HLM, je me retrouve à peu près à la même hauteur que quand les pigeons volent au-dessus de mes bâtiments d'enfance. De renverser ce rapport d'échelle, c'était une façon de prendre une forme de distance, comme le fait de choisir un animal comme regardant. C'était une façon de prendre une distance déjà physique avec ses appartements et une distance intellectuelle avec ce qu'on pouvait y observer. Je pense que votre introduction était assez juste, quoi. Le pigeon observe ça d'une certaine façon en donnant la même valeur à tout ce qu'il observe.
Puisque vous précisez que c'est un quartier d'enfance, peut-être nous dire comment ce travail a été pour vous le moment d'un retour à, et peut-être nous dire ce qui l'a motivé et n'a pas nécessairement été évident dans ce retour.
Moi maintenant j'habite à Genève, quoi. J'ai ma compagnie qui est basée en Suisse. Je suis un artiste qui est basé là-bas. Et j'avais fait plusieurs projets qui n'avaient rien à voir avec, avec mon quartier, enfin avec quoi que ce soit d'autobiographique. J'ai d'abord commencé à collaborer avec un metteur en scène qui s'appelle Milo Rao, qui est un metteur en scène suisse-allemand, mais basé plutôt en Allemagne et qui maintenant dirige un théâtre en Belgique. Et j'ai fait un projet avec lui qui s'appelait Civil Wars, sur des jeunes belges qui s'engageaient en Syrie Et donc voilà, on en a rencontré plusieurs pour ce projet-là. Et finalement, la forme qu'a pris cette pièce-là, c'était de partir des biographies des quatre acteurs présents au plateau pour dire qu'est-ce qui en nous faisait guerre civile. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte du caractère politique que pouvait avoir l'introspection. C'est vraiment avec Milo. Et donc pendant son spectacle, j'avais évoqué déjà l'idée que, enfin le fait que dans mon quartier, les bâtiments portaient le nom de compositeurs. Et à Bruxelles, j'ai rencontré un compositeur qui est un pianiste qui est assez connu parce qu'il travaille beaucoup avec Interzet Kersmaker, qui s'appelle Alain Franco, à qui j'ai proposé de faire un projet musical autour de ça déjà à l'époque. Mais le moment où il y a eu un vrai déclenchement pour moi de retourner dans mon quartier, de re-rencontrer mes camarades d'enfance, c'était vraiment c'est un peu après le 13 novembre. Il y avait une de Libération qui représentait 10 visages de jeunes garçons d'une vingtaine d'années, quoi. Et je me rappelle vraiment m'être dit que ces gars ressemblaient beaucoup à moi-même et puis à mes copains d'enfance, quoi. Et comme j'entendais beaucoup de choses depuis la Suisse, hein, vraiment je regarde tout ça depuis l'extérieur, donc c'est plus facile d'observer les choses depuis l'extérieur que si j'avais été en France, je pense. Mais puis j'observais un peu les réactions du gouvernement français qui disait qu'il fallait démultiplier les attaques en Syrie, puis je trouvais ça déjà un peu absurde tout ça. Je devais faire une autre pièce normalement cette année-là, et j'ai proposé une autre pièce de retourner dans mon quartier d'enfance, de travailler vraiment sur concrètement le dénominateur commun de ce qui lie beaucoup de ces personnes qui étaient en une de Libération, c'était le fait qu'elles aient grandi pour la plupart dans des cités HLM, que pour la plupart étaient issues de la seconde génération d'immigration. Et donc j'ai voulu faire un travail sur ça, donc d'aller rencontrer la seconde génération d'immigration que je connaissais, c'est-à-dire celle avec qui j'avais passé la première partie de ma vie, quoi, jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et donc, je suis retourné un peu en résidence. J'ai organisé ma propre résidence dans mon quartier d'enfance. J'ai pris un appartement au Pigeonnier, et j'ai commencé à re-rencontrer les gens que j'avais pas vus depuis 13-14 ans. Faire des interviews, rencontrer les politiques, discuter un peu quelle a été l'évolution de ce quartier. Et assez vite, j'ai su que j'allais non pas faire un projet documentaire au sens du théâtre documentaire que fait Milo, mais de faire une œuvre poétique dans le sens politique pour un plateau de théâtre.
Vous n'êtes pas le seul à être allé puis retourné dans le quartier des Pigeonniers à Amiens. On va entendre deux reportages mis bout à bout, le premier de 1992 et le deuxième de 2004.
Je parle comme un Français, je mange plus ou moins comme un Européen, je m'habille plus ou moins comme un Européen. Chez moi, j'habite pas dans une casse-bas, comme on veut peut-être nous faire croire. J'ai un comportement d'Européen. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour m'intégrer ? Qu'on me le dise. Non, mais qu'on me le dise, parce qu'aujourd'hui, on nous parle tous d'intégration. Je crois qu'on est intégré. C'est vous qui nous avez pas encore intégrés. Vous savez que dans une cité, arrivé à 20h, ou même pas à 18h, il n'y a plus âmes qui vivent ou fonctionnaires qui vivent, qui traînent dans les rues. Il est clair qu'il n'y a plus que les policiers qui passent en fourgon. Il n'y a plus de contact entre les jeunes. Vous savez que les jeunes aussi, dans les cités, ils sont autant en insécurité que sans qui que ce soit. Vous savez que quand il y a des incidents, les jeunes ne viennent jamais se plaindre à la police, parce que quand ils arrivent, les policiers se foutent d'eux. Ce qui les met en état d'insécurité, c'est quand il y a des gens qui passent, qui les insultent, quand il y a des gens qui courent après eux, qui descendent avec des barres de fer, quand il y a des gens qui tirent des coups de fusil dans la nuit puis qui sautent. Dès qu'il y a le moindre accrochage ou dès qu'il y a qui que ce soit qui passe, ils deviennent agressifs. Quand les policiers y viennent sur un incident qu'il y a dans une cité, ils ne cherchent pas à savoir qui a raison, qui a tort. Ils cherchent à savoir qui a la peau bronzée et qui est jeune. Notre rôle à nous, c'est un petit peu de faire émerger ce qu'il y a comme problème dans les cités à l'extérieur. Et on a tellement saupoudré de l'argent qui a été mal géré dans les cités, c'est que maintenant, quand on demande à un jeune de faire quoi que ce soit bénévole, il refuse. Ils demandent à être payés. C'est vrai qu'on n'a pas indemnisé nos parents par rapport à ce qu'ils ont laissé en Algérie, mais par contre, on a créé dans la communauté harkie une envie d'argent. Là, je sors de la préfecture, il y en a un qui voit rentrer un bonhomme arabe aller monter là-haut. Quoi, il y a de l'argent qui est arrivé pour les harkis. Un autre harkie qui dit ça. Me dire non, mais c'est devenu de la paranoïa, on est tous devenus parano. Mais vous croyez que si même si on donne 50 000 francs à nos parents, ça va pouvoir régler le problème de dysréglement de chômage pour un an, pas deux, hein. Donc on vient pas aussi nous dire que nos parents sont des traîtres, hein. Il faut savoir qu'ici, les fils de harkis, ceux de la deuxième génération, si aujourd'hui ils avaient été en Algérie, ils auraient été du côté du FLN, hein. Ils auraient pas été du côté de la France, faut pas nous prendre non plus pour des idiots, hein. Donc qu'on arrête un petit peu. Et peut-être que les fils d'émigrés qui insultent nos parents de traîtres, eux auraient été du côté de la France. Donc il y a deux choses, nos parents ne savaient ni lire ni écrire, donc ils ne savaient rien, donc on les a enrôlés plus ou moins de force, donc on ne vient pas nous faire à nous le procès vis-à-vis de nos parents, hein. Ça on n'y croit pas. La génération 32 45, elle est fichue. Dans notre communauté, ce sont des gens qui n'ont aucune chance. Donc la seule solution qu'ils ont, c'est de vivre le même système d'assistanat que nos parents vivent depuis une dizaine d'années. Ça veut dire de faire des enfants, rester chez eux, refaire des enfants, rester chez eux, recréer indirectement les problèmes de la deuxième génération avec les problèmes de la troisième génération.
Non, on rigole, monsieur, en fait, on n'est pas comme ça, en fait. C'est juste là, on se plaint un petit peu, mais au fond de nous, on rigole tout le temps, on essaie de s'en sortir. On va travailler un jour, vous inquiétez pas. On va trouver, on va persévérer. On va pas toujours dire c'est la faute des autres, c'est la faute de la France, tout ça, tout ça.
C'est la faute de nous aussi.
Non, il y a pas. On a notre fierté, on va travailler. Même s'ils nous font la misère, on va persévérer. Ils nous refoulent dans le bois d'intérim. On va continuer, on va se lever de plus en plus tôt et on va trouver. Et dès qu'on trouve, on fonde une famille, on a une femme bien, des enfants. Les enfants, on va les mettre en école privée pour qu'ils étudient. On va leur apprendre la langue française bien comme il faut, parce que c'était notre problème, c'est qu'on parle mal la langue française. C'est parce qu'on a notre culture, en fait, qu'on veut pas perdre. Et ça fait qu'entre nous, on parle arabe, on parle notre langage, langage de rue, tout ça. Mais on va essayer de s'en sortir. Nos enfants... ils vont bien grandir, vous inquiétez pas, on en a tiré des bonnes leçons de la rue, on en a marre. Et maintenant, on va se mélanger avec tout le monde, et ça va être bien.
Moi je peux parler.
Tous ensemble, la France de demain, c'est nous.
Qui ROH de ZF. Comme l'ancien, regarde. Non, hey, monsieur, vous savez, aujourd'hui, les Obok plus 5, ils travaillent pas. Comment ça se fait? Comment vous pouvez nous expliquer ce corps?
Persévérer. Moi j'ai Bac plus 2, je vais travailler.
1992 et 2004 sont deux reportages radio effectués dans le quartier des Pigeonniers, dans le quartier nord de d'Amiens. Karine Belkacem, je disais en introduction, pour parler de votre dernière création, 23 rue Couperin, qu'il y a quelque chose de l'oreille sublime du pigeon qui fait entendre quelque chose qu'on ne peut pas entendre ou qu'on n'arrive pas à entendre. Et en fait, dans ces reportages de 92 et 2004, ce qu'on entend, c'est que ça se répète. C'est que quelque chose se répète qui, si ça se répète, nous dit que ça n'est pas entendu. Et vous, vous découpez votre spectacle en trois actes qui disent « la parole est A, la parole est A, la parole est A ». Est-ce que ce que vous faites, c'est décider d'entendre une bonne fois pour toutes?
D'abord, je trouve que les extraits sont assez incroyables. Je les connaissais pas. Je trouve qu'ils sont très émouvants. C'est vrai qu'il y a un caractère répétitif dans tout ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé à mettre sur du papier quels étaient les éléments de mon quartier, donc ça s'appelait le pigeonnier à cause des pigeons. Les tours portaient des noms de compositeurs. Et aussi, il y a une chose qui est très répétitive dans les quartiers nord d'Amiens, c'est les émeutes. C'est d'ailleurs un des moments qu'on a traité scéniquement. On s'est dit comment on pourrait rendre sur un plateau de théâtre ce qu'est une émeute, quoi. On a commencé à faire la liste de toutes les émeutes et à chaque fois à chercher l'origine du début de l'émeute, quoi. Comment l'émeute a commencé? Donc, le premier extrait que vous donnez, 92, c'est la première émeute inaugurale des quartiers nord qui allait la dernière c'était 2012, avec la visite de Manuel Valls après, quand un policier s'est fait tirer dessus. Mais donc, la première commence en 92. Et donc l'extrait qu'on a là, ça doit être un moment où il y a un grand malaise justement dans la communauté harki, justement qui se sent pas respecté. C'est un événement assez précis, quoi. Il y a eu un enterrement dans la communauté harki et il y a eu un accident de voiture, je crois. Un gamin est mort et il y a eu un enterrement organisé à Amiens. Et donc il y a eu énormément de gens de la communauté harki qui s'étaient garés à côté du cimetière et évidemment, comme il y avait trop de voitures, les voitures n'étaient pas parquées exactement comme il fallait. Il y avait plus de place, donc ils ont commencé à se mettre en double voie. J'ai pas le permis, donc je pense qu'on dit ça comme ça. Et les policiers sont venus et ont commencé à mettre des contraventions sur toutes les voitures comme ça. Les vieux harkis racontent vraiment bien cet événement, quoi. Et donc les gens sortaient du cimetière, ils arrivaient, ils commençaient à voir toutes les voitures avec les amendes dessus. Et les vieux harkis disaient bon, c'est bon, on va payer. Et c'est la première fois que les enfants de harkis, la deuxième génération, a commencé à dire non. Et donc ils ont commencé à dire on va pas payer, ils ont commencé à organiser la première émeute dans les quartiers nord. C'est celle-là la première en fait. Parce que moi j'en mets en scène une autre qui me semblait encore plus représentative parce qu'elle est liée au projet, qui est la deuxième émeute assez importante qui est de 95, qui est aussi liée à la communauté harki, qui avait vraiment eu une relation assez conflictuelle, qui s'est passée dans un anniversaire dans la communauté harki d'une jeune fille, je crois, qui avait lieu dans un local ou sous-sol. Et pendant cet anniversaire, donc il y avait du bruit évidemment comme pendant l'anniversaire, un quart de CRS arrive, ça dégénère un peu, une bombe lacrymogène est jetée dans l'anniversaire, et les CRS partent. Et donc c'est le début d'une émeute, et le lendemain, le préfet, d'ailleurs il y a les vidéos sur internet qui sont assez intéressantes, le préfet de la Somme commence à dire « mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'un quart de CRS irait faire ?» On est en 95, donc qu'est-ce qu'un quart de CRS irait faire à 2h du matin dans les quartiers nord pour jeter une bombe lacrymogène, tout ça. Donc les émeutes continuent et le surlendemain, un couple de Picards qui avait filmé avec un caméscope va à la préfecture avec une cassette VHS de la vidéo montrant un quart de CRS arrivant, jetant le bombe lacrymogène. Donc on est au début de l'ère vidéo et donc voilà, c'est les deux premières émeutes et on s'est rendu compte comme ça que tous les 2-3 ans il y avait des émeutes et à chaque fois c'était pour des sujets assez, assez limites. Donc, et donc voilà, donc la répétition, et c'est quelque chose... Le mal-être et la répétition, c'est quelque chose qui est vraiment associé pour moi à mon quartier. J'ai souvenir, jusqu'au moment où je pars, d'avoir tous les 2-3 ans eu observé de ma fenêtre des vraies émeutes, quoi. C'est-à-dire, et donc j'en ai fait un élément quasiment visuel de mon quartier, sans avoir ni de jugement positif ni négatif dessus, parce que je trouve que c'est beaucoup plus violent maintenant que j'ai. Maintenant, j'ai l'impression qu'il pourrait plus y avoir des émeutes dans mon quartier. C'est ça qui m'a un peu plus. Je pense que la répétition s'est arrêtée, mais pas pour le bien. Je dis ça sans être provocateur. Hein. Je pense qu'il y avait quelque chose dans les émeutes même de 2005 qui était assez, assez salvateur finalement. Aujourd'hui, je trouve que dans ce que j'ai observé de mon quartier l'année dernière, l'absence de cette possibilité de l'émeute, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Je l'ai dit.
Et vous la voyez de quel côté? Vous la voyez du côté où elle serait réprimée ou vous la voyez du côté d'une forme de calme triste, quoi?
C'est le calme triste, c'est une bonne façon de le dire, mais comment dire, c'est une façon d'abandon, quoi, une façon de la lutte a été abandonnée, de résignation, c'est ça le terme que je cherchais, il y a une forme de résignation, et c'est ce qui m'a vraiment vraiment beaucoup étonné chez des copains que je trouvais un peu, pour beaucoup d'entre eux, ils ont accepté le système, quoi. C'est incroyable, c'est, et pas forcément un système qui va dans leur sens, hein. C'est ils ont accepté d'être des chauffeurs Uber, ils ont accepté d'aller pointer pour leur RSA, ils ont accepté donc évidemment il y a eu des mesures très fortes qui ont été prises. Ils ont rasé un quartier entier qui s'appelle Brosselette, qui était un quartier qui était une plateforme très importante de la drogue dans les quartiers nord. Ils l'ont vraiment rasé, comme ils n'ont pas trouvé de solution, ils ont tenté plusieurs choses, mais au bout d'un moment ils ont décidé de raser le quartier. Ils l'ont rasé, il y a un trou maintenant à Brosselette qui est juste à côté du Pigeonnier. Donc il y a eu des actes forts, comme après la visite de Manuel Valls en 2012, il y a eu il faudrait faire une statistique, il y a eu un nombre d'arrestations assez incroyable pour des délits mineurs où les gens se sont pris vraiment des grosses peines. C'était vraiment des actes politiques. Manuel Valls est venu et il a vraiment dit à partir de demain, je veux, et un peu comme Gérard Collomb peut le faire maintenant, c'est-à-dire des gens, bombent le torse et veulent montrer qu'ils sont là un peu, de manière un peu injuste, parce qu'il y a vraiment des gens, ça c'est des gens qui me l'ont raconté, parce que j'y étais pas, mais des gens qui se sont pris des peines vraiment
disproportionnées
par rapport à leurs actes. Là, il y a une forme de calme triste. Ouais, le calme triste, c'est un bon terme, parce que j'ai trouvé une forme de tristesse quand je suis retourné dans les quartiers nord. Évidemment, c'est une période de transition pour eux, parce qu'ils s'attendent à démanteler les bars, tout ça. Donc j'imagine ils s'attendent à trouver une autre solution architecturale. Mais donc là, on est dans une période de transition dans laquelle il y a encore des gens qui vivent. Et qui vivent cette chose-là. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de vie dans l'espace public quand j'y suis retourné en octobre l'année dernière que ce que moi j'avais connu enfant.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, le fait de passer la répétition fait que vous avez entendu moins parler? Ce qu'on a entendu de ces reportages 1992-2004 où on sent qu'il y a quelque chose qui peut-être ne s'entend pas mais qui continue d'être dit. Est-ce que là vous diriez que ça arrête d'être dit?
Je pense que les gens arrêtent d'exprimer cette révolte là et non, mais moi ce qui m'a vraiment beaucoup beaucoup étonné, c'est de voir à quel point je m'attendais à retourner dans mon quartier, à avoir des gens qui étaient quand même à gauche dans leurs idées, tout ça. Non, en fait la plupart d'entre eux ne votent pas, et quand ils ont une relation à la politique, pour beaucoup d'entre eux ils vont te faire la propagande de Sarkozy, parce que c'est quelqu'un qui s'en est toujours sorti. Donc ça devient une espèce de modèle de réussite. Et puis donc la question de la conscience politique, elle est tout est lié. C'est-à-dire, comme la gauche a été tellement décevante, elle a été vraiment décevante à Amiens. Le gros problème d'Amiens, c'est que quand la gauche a été au pouvoir, elle a vraiment complètement raté son coup. Et donc ça a eu des dégâts, évidemment. Les gens ont commencé à se désinvestir politiquement et puis ils ont commencé à trouver d'autres critères pour admirer un homme politique que ses idées, mais plutôt sa capacité à s'en sortir. Voilà, un peu, c'est les mêmes critères qu'on a dans les films, en fait. Si le personnage s'en sort, c'est que finalement il a raison, quels que soient ses méfaits.
Quels que soient ses méfaits.
Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est une relation à la politique qui est assez particulière. Et je me rappelle que ça avait, j'étais allé avec donc, le compositeur Alain Franco faire des résidences là-bas, et lui ça le choquait beaucoup. Lui il est, enfin je pense qu'il est d'un autre mouvement politique, et puis justement il rencontrait mes copains mais qui étaient tous fascinés par des modèles qui étaient vraiment des modèles du néolibéralisme très affirmés, et lui il disait mais comment tu peux vivre dans ces conditions-là et avoir comme mon rêve le fait d'aimer un homme politique parce qu'il porte bien le costard ou parce qu'il s'en sort toujours. Pour moi il y a une forme d'échec quand même qui s'exprime là, avec 70% de taux d'abstention, enfin c'est avec des gens qui sont vraiment dans des réactions assez dans la provocation. Moi, je voyais un peu des vieux monsieur enfin, originaire de l'immigration qui disait, mais moi, je vais aller, mais qui le disait sérieusement, en fait. Au début, je pensais que c'était une blague, qui me disait, mais moi, je vais aller tracter pour le Front National, parce que eux, au moins, mentent pas. C'était un peu ce type de raisonnement-là qui m'a vraiment interloqué quand j'étais sur place, quoi. Et je comprenais totalement leur raisonnement. Ils disaient, bon, bah, si on vote pour telle personne, je comprenais ce qu'il voulait dire.
Mais pour en revenir à Karim Belkacem, à ce que je disais de n'être pas entendu, c'est-à-dire que je me rappelle du réalisateur Lajli qui a filmé Montfermeil et qui a filmé aussi des réunions politiques où certains jeunes disaient « mais quelle est l'autre alternative ?»
Oui, mais c'est exactement ça, ils ne sont pas entendus.
Mais pourquoi
Bon, ils sont pas entendus parce que je pense qu'il y a eu ça a été un vrai échec. Moi, je peux parler que de la période que j'ai connue, c'est-à-dire moi j'ai interrogé les gens qui avaient mon âge, donc par exemple dans les interviews que je donne.
Vous êtes né en 1985.
85. Donc par exemple aujourd'hui le maire adjoint chargé des quartiers nord, donc qui s'occupe du plus grand nombre d'habitants de toute la circonscription d'Amiens, parce que les quartiers nord c'est le plus grand nombre d'habitants, donc il s'appelle Vladimir Mendes Borges, qui est d'origine capverdienne et qui est maintenant maire adjoint. Voilà. Donc j'ai commencé à reprendre contact avec lui quand je suis retourné, d'abord parce que j'ai vu sur Facebook qu'il était engagé au MoDem. Et puis ça m'a étonné parce que je pensais que c'était quelqu'un qui allait, voilà, qui était vraiment dans des idées de gauche, enfin affirmé, et donc qu'il était au MoDem. Et donc j'ai commencé à le recontacter, je suis allé prendre plusieurs cafés avec lui pour qu'il m'explique un peu comment il avait fini au MoDem. Et c'est un peu un cas d'école. Donc Vladimir, il avait passé quand il était en train de passer son bac, il voulait passer des écoles de commerce avec un ami à lui qui s'appelle Hamza. Et Vladimir Hamza ont voulu passer des écoles de commerce. Ils sont allés voir la gouvernance qui était là, donc le Parti Socialiste, le maire d'Amiens qui était au PS. Et ils lui ont dit, oui, ben, on aimerait faire des écoles de commerce, mais ça coûte super cher. Est-ce que si jamais on a une des bonnes écoles, est-ce que vous pouvez nous aider pour avoir une bourse de la ville? Et donc le maire PS de l'époque a dit oui, évidemment, on va vous trouver des moyens de faire cette école. Si vous avez les concours, ce serait déjà incroyable que des gens des quartiers nord se retrouvent dans ces écoles de commerce, ce serait un honneur, tout ça. Il y a eu un article écrit dans le courrier local, tout ça. Donc Hamza et Vladimir ont passé les écoles de commerce, ils en ont eu plusieurs, je crois, et ils sont retournés à la mairie pour dire bon voilà, on a eu des écoles de commerce, est-ce qu'on peut avoir une bourse pour aller faire cette école de commerce? Et ils n'ont plus reçu aucune réponse à aucune de leurs lettres, ils les prenaient plus au téléphone, ils les recevaient plus. Et c'est comme ça qu'il a décidé de s'engager en politique, Vladimir, et qu'il a suivi son parcours. Aujourd'hui, il fait partie du mouvement En Marche, quoi. Mais c'est comme ça que la politique s'est construite pour lui. Et ça encore, c'est finalement une bonne façon de dévier. Mais je pense qu'il y a eu, pour les gens issus de l'immigration, dans des cas très ponctuels, mais comme ça se reproduit dans plusieurs endroits de France, ça crée finalement un mouvement global. Il y a eu une sorte de sentiment de trahison, d'abandon, parce que certains groupes politiques ont gagné leur territoire grâce au vote des gens issus de l'immigration. Et finalement, quand ils ont été en place, rien n'a été mis en place concrètement pour eux en échange. Et dans mon quartier, je le sens super fort. Je le sens vraiment, vraiment super fort. Que de dire que tu es de gauche aujourd'hui dans les quartiers nord d'Amiens, c'est pas forcément une bonne chose pour eux.
Thank you. Essayons de savoir ce qui courage autre chose que la politique dans l'ordre d'esprit. Ici, pour la première fois,
on entend Karim Belkacem, un extrait de la composition sonore qui intervient plutôt au début de votre création 23 rue Couperin. Je rappelle que sur le plateau sont recomposées les barres d'immeubles en capla, c'est des petites planches en bois à une échelle 1/20, que des pigeons errent, puisque le quartier entre autres s'appelle le Pigeonnier, qu'une certaine présence mi-animal, mi-homme erre aussi. Et que nous sommes plongés dans un autre décor qui est le décor du son. Comment avez-vous travaillé cet aspect-là extrêmement sensoriel qui vient vraiment compléter, déranger, animer presque le bois et la lumière?
Quand j'ai commencé à penser à une forme du projet, donc la forme du triptyque, c'était quelque chose qui m'est venu assez tôt, de dire que, en fait, j'ai d'abord fait des essais où je mélangeais la musique, les bandes sonores, la présence, tout en même temps sur un plateau. C'est marrant parce que l'harmonie que ça créait, c'est quelque chose qui me posait vraiment. C'était très facile de séduire avec tous les éléments que j'avais en ma possession. C'était très facile de faire un spectacle très séducteur et séduisant. Avec ce que j'avais, quoi. J'avais des images, de la fumée, des animaux, donc de faire quelque chose de fascinant, ça, c'était assez facile.
Et vous n'avez pas voulu?
Non, c'était le danger. Pour moi, c'était vraiment le danger, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de mettre en relation dans toute la violence, l'incohérence qui existe déjà pour moi dans le réel, des éléments de mon quartier et de laisser le public faire sa propre construction à partir des éléments que je lui donnais. Donc je voulais déplier l'image et laisser le public décider s'il mettait en relation le bleu et le rouge et le blanc. Enfin voilà, donc j'ai assez vite pensé que j'allais avoir une forme rigide. Il a fallu convaincre les musiciens, parce que c'est de leur dire vous n'allez apparaître qu'à tel moment, et quand vous allez finir de faire votre musique, vous allez sortir, parce que c'était pas l'île de départ. L'île de départ, c'était une pièce musicale. Mais c'était d'abord de convaincre un peu l'équipe d'une forme radicale sur ce projet. Donc la première partie, je voulais mettre en scène l'architecture, quoi, les bâtiments dans leur globalité. La deuxième partie, de mettre en scène les noms qui ont été donnés au bâtiment, les noms de compositeurs de musique. Et la troisième partie, un être humain qui a vécu dans ces bâtiments. Donc je voulais vraiment désynchroniser tous ces éléments. Donc la première partie, ça ressemble vraiment à une installation sonore. Il y aurait plusieurs façons d'en faire l'expérience. Peut-être en se promenant dedans, comme beaucoup de gens m'y ont invité. On m'a demandé peut-être de faire une forme d'installation d'espace avec le projet. Après, j'aime beaucoup l'idée qu'on ait à faire une espèce de tableau scénique et qu'on soit contraint à rester à sa place, à observer la totalité, à entendre toutes les voix et ne pas choisir les voix, quoi, parce que les voix des fois sont mises en contradiction. Donc pour créer cette première partie, quand je suis retourné dans les quartiers nord l'année dernière, j'ai cherché des bandes sonores aussi. Et en fait, la plus grande source de bande sonore que j'ai trouvée, elle était issue d'un couple d'Amiénois qui a créé une association qui s'appelait Canal Nord, qui a filmé dès 1984 à l'intérieur des quartiers, d'ailleurs, qui avaient leur bureau de tournage, leur studio de tournage au 9e étage de la barre Couperin. Et ils ont filmé, pendant 25 ans, ils ont filmé les gens dans leurs habitations, les événements, la visite de Jacques Chirac en 96, les matchs de foot des gamins. Ils ont tout filmé, c'était incroyable, ils ont tout filmé. Je sais pas, il doit y avoir 50 000 vidéos. Et elles ont été gardées par une association qui s'appelle Carmen, qui a un bureau en centre-ville. Et donc, je suis allé les voir pour récupérer un peu. Elles ont pas été triées, ces bandes sonores, quoi. Il y a très peu d'indications. Ils ont commencé à faire un travail d'archivage. Mais là, je sais qu'ils sont dans une demande de fonds depuis quelques années déjà pour recevoir des sous, pour pouvoir mettre des noms sur les vidéos, parce que c'est assez incroyable comme matériel. Donc, j'ai passé énormément de temps avec deux, trois personnes de mon équipe à aller là-bas et à regarder des vidéos. C'est un travail assez laborieux, quoi, parce qu'il y a très peu d'informations données. Mais je voulais vraiment retrouver des scènes symboliques qui s'étaient passées dans chacune des barres, comme ça. Donc j'ai récupéré de ces bandes sonores, qui constituent 80% de la bande sonore du début. Et donc j'ai fait une espèce de montage, un peu l'une des sources d'inspiration, c'était vraiment les ailes du désir, quand l'ange arrive comme ça au-dessus de Berlin et qu'on commence à entendre ce qui se passe dans les appartements. Et ce qui m'intéressait, c'était de mettre en relation de toutes ces voix, quoi, de voir un peu de quoi était constitué le pigeonnier pour moi dans mes souvenirs. Il était constitué de l'accent picard, il était constitué, qui est un accent assez particulier, il est constitué de toute la question archi, de la question de l'ouverture des premières mosquées, de toutes ces choses-là, quoi. Et donc tout ça crée une forme d'énergie assez qui monte comme ça en tension. Et voilà, c'est de ça. Et puis pour 20%, j'ai reconstitué avec des acteurs rencontrés principalement sur Paris, des événements qui pour moi étaient symboliques, quoi. Comme l'une des premières scènes que je mets en scène, c'est les émeutes de 96. Je voulais avoir la bande sonore issue qui était à l'origine des émeutes de 96, qui est cet anniversaire dans la commune d'Arki, dans lequel un quart de CRS s'est introduit. Donc c'est une des bandes sonores qui fait partie, qui a été tournée par moi. Et l'autre, c'est le destin de ce Yacine qu'on retrouve à la fin. Et c'est surtout parce que c'était vraiment quand je suis retourné dans mon quartier, j'ai commencé à chercher certains de mes potes, puis je demandais mais qu'est-ce qu'il est devenu un tel, et puis ils me disaient ouais mais un tel il a fait un séjour à Pinel, qui est l'hôpital psychiatrique d'Amiens, et j'ai commencé à me renseigner parce que je connaissais moi j'ai pas vraiment été dans les trucs de je me suis très peu drogué dans ma vie, tout ça c'est ma chance, mais donc je m'y connaissais pas bien, mais donc deux trois de mes camarades d'enfance avaient fait des séjours à Pinel, puis j'ai commencé à me renseigner sur la raison de leur séjour. En fait, c'était lié vraiment à des mauvaises drogues dont on parle dans les bandes sonores, dont certaines s'appellent la Brown, qui est un mélange d'héroïne de tout ça. Et donc, il y a deux, trois de mes copains d'enfance qui ont shifté à cause de ça. Et donc je voulais faire enregistrer des sons que j'avais déjà entendus d'un gars qui tape à la porte, qui demande l'argent à sa mère pour on comprend un peu pourquoi, et qui se met un peu misérable pour ça. Et quand j'ai fait enregistrer ces voix-là, j'ai rencontré par hasard cet acteur qui était Fami Gerba, et c'était tellement incroyable ce qu'il a fait pendant l'enregistrement que je l'ai engagé pour faire la dernière partie, qui était vraiment celle de centrer l'attention autour de son cas et de mettre en relation ce que la schizophrénie qui est issue de cette consommation de drogue, parce que c'est un peu ça les dérives de cette drogue là c'est que ça crée des états de schizophrénie, et ce que moi je percevais comme une forme de schizophrénie sociale dans mon quartier.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
C'est une place à construire les cabanes. Avec des planches ou des draps. Je dis à ma mère que je vais être architecte. Après, elle m'a dit bah, faut travailler à l'école. Après, elle m'a dit je vais passer le diplôme d'animateur. Comme ça, je gagne de l'argent et je peux payer l'école d'architecte parce qu'elle m'a dit ça coûte très très cher. Comme ça, pendant les vacances d'école, je vais être animateur dans les centres de loisirs pour payer l'école d'architecture. Les architectes, ceux qui vivent dans les grandes villes, eh ben, ils savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Ils font des bâtiments, de grands bâtiments. Après, comme le bâtiment il est grand, et ben après les gens ils veulent pas vivre dedans. Dans l'ancien bâtiment où j'habitais, il était très très haut. Et comme il n'y avait que des enfants et des petits qui habitaient dedans, ça posait un problème parce que après les enfants ils peuvent se blesser. En fait, c'est un enfant, il était en train de jouer avec son père dans le balcon. Après, son ballon il s'est envolé, les ballons qui se gonflent. Après, il s'est envolé, après il a voulu le rattraper, il s'est penché, il est tombé du 7e étage.
C'est la voix d'une fillette dans un film qui s'appelle Swagger, réalisé par Olivier Babinet. Et elle est en bas d'un petit escalier, et puis j'imagine qu'on lui demande ce qu'elle veut faire plus tard. Et elle parle d'architecture. Et évidemment, c'est pas un hasard qu'elle parle d'architecture. Le film d'Olivier Babinet s'emploie à filmer d'une certaine manière des cités, je crois, de Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. J'ai envie de dire, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est peut-être ce que dit la petite fille de son rapport à l'architecture et peut-être de la manière dont affleure ce sujet-là. Il n'y a pas très longtemps, Kader Attia était à votre place et il présente en ce moment au musée Macval de Créteil une exposition qui a à voir avec l'histoire de l'architecture de certains grands ensembles, ici en banlieue parisienne et puis en Algérie. Pourquoi avez-vous décidé, vous le disiez tout à l'heure, Karim Belkacem, de faire de l'architecture du pigeonnier presque le personnage principal de votre création? Et que pensez-vous du fait qu'on s'y penche? Quand je dis « on », c'est-à-dire quelque chose de plus collectif que vous.
Pourquoi j'ai décidé de faire de l'architecture du pigeonnier? Bah, en fait, c'est un élément qui est tellement important. Je crois que c'est un élément qui est... je crois que ça fait vraiment partie de ce qui a constitué une bonne partie de ma vie et puis de la vie de mes amis, quoi. C'est le fait d'avoir grandi dans cette architecture là à plein de niveaux, hein, pas seulement dans la forme et les lignes droites, parce que hier par exemple j'étais dans une rencontre avec Patrick Bouchain qui est architecte et qui justement mettait en crise le fait de dire que le problème c'était l'architecture telle qu'elle est conçue, quoi, que ça n'avait rien à voir avec ni la taille ni les lignes droites, parce qu'il donnait d'autres exemples de taille de bâtiments de la même taille et de même lignes droites dans d'autres endroits, que le problème était c'est quelque chose auquel aussi je crois, qui est plus dans l'architecture sociale, quoi. Donc comment tu de créer une architecture à l'intérieur de cette architecture, quoi. Et donc pour moi c'est clair que c'était quand on épouse le point de vue du pigeon, je pense que l'une des premières choses que tu observes, si vraiment tu traites tout avec la même valeur, c'est les formes. Et j'ai vraiment fait l'exercice en fait, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment mis des caméras, des petites caméras de surveillance sur un pigeon. J'ai travaillé avec un colombophile, on a fait plusieurs essais comme ça, on a mis des petites caméras d'une dizaine de grammes sur des pigeons qu'on a envoyés dans le quartier pour filmer. Puis après, voilà, donc l'une des vidéos je l'utilise, mais j'en ai accumulé d'autres où je mets le pigeon dans les alentours de bâtiments de mon enfance, tout ça. Et j'observe juste ce que je vois de son point de vue, quoi. Quand le pigeon commence à voler, la chose que tu remarques, c'est vraiment des lignes très rigides, vraiment. Si tu observes autrement que par un plan sur une table, c'est l'une des premières choses qui te frappe. Pour moi, la relation entre l'architecture et la vie de ces gens est tellement forte que de l'avoir comme personnage principal, ça m'a semblé assez évident dès le début. Cette idée dans... Je sais pas, je pensais aussi à l'immeuble Yacoubian, de fait que, ce genre de choses qu'on donne...
Qui est un roman.
Qui est un roman, qu'on donne, qu'on donne comme personnage principal le bâtiment. Votre autre question,
c'était L'autre question, c'était sur quelque chose de peut-être plus collectif, de plusieurs interrogations d'artistes sur ça. Je faisais référence à Kader Attia. Et de se demander, ou aussi au réalisateur Lajli qui filme Montfermeil aussi, en ayant d'ailleurs, en utilisant des drones, aussi en se penchant sur la question architecturale, on pourrait très bien s'intéresser à ces endroits-là, en s'intéressant, je sais pas, à la vie associative, au registre de parole, comme ça a été fait, je sais pas, à la présence des espaces verts, à l'amitié, à l'amour. Et c'est fait aussi par ailleurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est significatif dans le fait qu'on s'intéresse aux immeubles ?
En fait, pour le pigeonnier, l'une des autres raisons, c'est...
Leur destruction.
Exactement. C'était quand même une surface sur laquelle c'était écrit toute une histoire. Une histoire de mon quartier, mais aussi une histoire de la seconde génération d'immigration, même de la première. Je vais même plus loin. C'est une partie de l'histoire de la France qui s'est écrite sur ces grandes barres HLM et qui maintenant sont appelées à être démantelées. Et comme c'était spectaculaire la façon dont elles ont été érigées... C'est moins spectaculaire la façon dont on les démantèle, parce qu'on est un peu revenu sur l'idée de je me rappelle de plein de vidéos dans les années 2000 où on avait des grandes démolitions à la Duchère.
Qui ont d'ailleurs aussi donné lieu à des vidéos artistiques. Ça a été aussi une source de fascination.
Ouais, la destruction. Ouais, Cyprien Gaillard a aussi travaillé sur ça. Mais je pense que les gens s'intéressent à ça parce qu'ils sentent que c'est toute une partie de l'histoire qui est en train de, pas de disparaître, mais bon. Sur laquelle on essaye de mettre un voile en disant bon, ça existait mais ça n'existe plus.
Et histoire qui, selon vous, a été écrite pour en revenir à la question d'entendre des paroles, parce que ces barres-là, elles sont détruites, mais est-ce qu'on a pris le temps, en bons archivistes, de faire quelque chose de cette histoire avant qu'on essaye par la destruction que de la faire disparaître ?
Au pigeonnier, on a eu la chance d'avoir ce couple d'Amiénois qui a créé cette association. Je pense que tous les mouvements un peu de mémoire se sont faits de manière assez individuelle, à l'échelle associative. D'ailleurs, je pense que toutes les bonnes choses aujourd'hui se font comme ça. Il n'y a pas vraiment de mouvement global qui a été une solution. Je pense que c'est... Enfin, je sais pas. Parce que quand j'y suis retourné, je voyais ça quand même d'un bon œil, quand même, la destruction des bars. Aujourd'hui, pour avoir rencontré aussi des gens qui ont été concernés par la destruction du quartier des peintres, parce qu'il y a eu d'autres barres HLM qui ont été détruites il y a quelques années, la Ingres, tout ça. Et quand on voit que ça n'a pas du tout eu un effet positif sur chaque personne qui a vécu, parce qu'il y a vraiment des personnes qui le vivent comme un membre absent, quoi. Il y a des gens qui sont arrivés dans ces barres HLM, par exemple dans le quartier des peintres, qui étaient arrivés il y a 40 ans, puis du jour au lendemain, on détruit la barre. Et donc, c'est quand même très... il y a une forme de traumatisme quand même dans cette idée-là. Donc pour moi, c'est une grande barre HLM, c'est un peu un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de solution. C'est-à-dire dans leur destruction ou dans leur conservation, ces deux solutions posent quand même un certain nombre de problèmes. Donc elles sont assez fascinantes, ces barres, parce qu'en même temps... elle questionne quelque chose de l'ordre de l'histoire de la France et d'une histoire qu'on voudrait plus voir, et elle pose aussi la question de l'avenir, quoi, d'un avenir auquel on n'a pas vraiment non plus de réponse. Donc on est dans un endroit où tu le sens, même quand tu discutes avec les offices qui s'occupent un peu de ces questions urbanistiques dans les quartiers.
Des offices HLM, des offices...
Oui, ça porte un nom qui est vraiment un nom... qui change d'avis chaque 3-4 ans sur la solution à apporter. Est-ce qu'il faut démonter, tout ça. Et on sent que c'est vraiment un problème. La question de cette architecture-là, elle pose problème à la France, je pense. De la gestion de ces architectures-là. Et oui, depuis de commencer le projet, de commencer la pièce sur un démantèlement, enfin une destruction en direct devant le public, c'était aussi le fait d'affirmer que ce à quoi je voulais m'attaquer, c'était mettre en place une forme d'introspection de mon quartier en anticipant la destruction, quoi.
Karim Belkacem, vous le disiez tout à l'heure, vous avez opté pour cette pièce pour un triptyque radicalement découpée. Et la partie du milieu est une partition musicale. Les musiciens sortent d'une forme d'orchestre et interprètent une partition de l'espace, reprenant les promenades ou les déplacements des êtres d'un bâtiment à un autre qui portent des noms de compositeurs, donc, d'une certaine manière, invitant à une sorte de traversée de l'histoire musicale et jouant une partition composée exprès. Une sorte de, voilà, de partition de l'espace. Et puis, le troisième moment est l'arrivée d'un comédien sur scène portant un monologue final.
La 9e symphonie, bah ouais. Eh, on parle français ici, ta mère. On parle français. Bang, bang, dans ta tête, c'est du rap sismique. Hein, bling, bling, dans ma tête, c'est du rap sismique. C'est pas du rap pour les gueudins, gueudins. C'est pas du respect qui se respecte. Faut que ça rentre, faut que ça bouge, faut que ça s'intruse. Faut que ça rentre, faut que ça s'intruse. Et là, moi, voilà. Eh, là, tu vas trop loin. Voilà, il y a trop de bling, bling dans ta tête. Ouais, on parle français, je l'ai répété deux fois, on parle français ici. Ils ont beaucoup plus de facilité qu'une femme, les hommes. Moi, je fais que ça que de chercher. Quelquefois, je me demande si je travaille pas autant que quand je vais travailler. Hé, dans une minute. Si vous n'êtes pas tous sortis, c'est fait d'artifice. Il va falloir aimer. Il ne peut pas y avoir de liberté, d'improvisation de la ville, de la part de la population qui se sent exclue s'il n'y a pas le mot aimer. Il ne peut pas y avoir égalité s'il n'y a pas le mot aimer. Il ne peut pas y avoir vraiment le mot fraternité s'il n'y a pas le mot aimer. Toute la démarche municipale ne vise qu'à réapprendre et à réintroduire le mot aimer, connard. Hein? Il y a trois jours, pigeonnier, pigeonnier, tralalala, pigeonnier, pigeonnier. Maman, voilà. Voilà, maman, s'il te plaît. Maman, dans une minute. Dans une minute, j'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Ouais, je suis encore là, je suis encore en bas, je suis encore là, je sais pas quoi dire, qu'est-ce que tu veux, je sais pas quoi dire, j'en sais rien. Lorsque nous dormions tous les deux dans l'attitude que nous avons pensée, la forme du tombeau. Wama Adara Kamal Khaliya. C'est désagréable. Voilà, c'est désagréable. Allez par un bot. Allez par un bot à côté. Voilà. Allez à côté, cassez-vous. Niquez vos mères. Pas de fils de pute. Cassez-vous. Casse-toi la tête de ma mère. Voilà, je vais me suicider, maman. Voilà, ils vont me voir dans le train, maman. Voilà. Hakrabi, voilà, ça ne pas la porte, maman. Voilà, je vais sauter dans les rails. Voilà. C'est inacceptable ce que vous devez me dire, monsieur. Avec un vocabulaire. Qui n'est pas propre à moi. Il n'y a pas de culture française. La culture française, c'est nourrie de toutes les cultures du monde. Donc, faut voir comment je peux les absorber. Quand je regarde une cathédrale, eh ben, je m'empêche pas de regarder là. On peut pas s'empêcher de regarder les cultures du monde. Et quand je regarde les quartiers, la culture de demain, c'est demain qu'elle se fait. Avec les énergies, avec les talents. Il suffit de les élever. Il y a de la belle neige. Ça fait plaisir.
Il y a de la belle neige, ça fait plaisir, c'est une forme de suspension dans ce monologue quasi final porté par Fahmi Gerbaa. Alors on entend que ce corps est traversé par tout ce que vous avez déployé au départ, Karim Belkacem, et tous les montages de sons, de vidéos, les archives d'un seul coup, et des paroles de chansons de Céline Dion et des plaintes d'un homme qui réclame de l'argent d'un seul coup. Traverse de manière extrêmement chaotique un seul corps. Comment en êtes-vous arrivé à cette évidence du seul corps ?
Bah déjà, c'est une façon d'observer un peu les résultats de tous ces sons sur une personne. Mais en fait, quand j'ai commencé à me renseigner sur les raisons qui faisaient qu'en prenant ce type de drogue, on se retrouvait dans ce type d'endroit. Justement, on m'a parlé de la schizophrénie.
Type d'endroit, c'est-à-dire dans l'hôpital psychiatrique.
L'hôpital psychiatrique, oui, c'est ça. On m'a parlé vraiment de la schizophrénie, en fait, qui était vraiment un des symptômes apparents. Et en parlant de la schizophrénie, on m'a dit que une façon de décrire la schizophrénie, c'était qu'on traite toutes les informations, un peu comme le pigeon, vous le disiez de manière poétique au début, on traite toutes les informations avec la même valeur. C'est-à-dire tout ce qu'on reçoit nous affecte de la même façon. Quoi. Un verre qui tombe, alors ton équipe qui gagne, de foot qui gagne, ou alors la mort de quelqu'un, tu reçois tout de la même façon avec la même intensité. Et on en voit beaucoup des gars comme ça dans la rue qui parlent tout seul comme ça, qui parlent, qui changent le sujet toutes les deux phrases comme ça. Et moi, ça, enfin, j'ai vraiment mis ça en relation, quoi. C'était les gens disent ce à quoi ils pensent, quoi. Et si tu te mets à dire tout ce à quoi tu penses, bah tu ressembles un peu à ce que fait Famille. Donc Famille, lui, tout ce qu'il fait, il reprend les paroles de toutes les personnes, politiciens, acteurs associatifs, gens du quartier. Enfin là, il reprend Malraux, il reprend le prêche à la mosquée, il reprend je sais pas une vingtaine de, même plus d'une vingtaine de personnes. Et justement, qui le traverse dans les contradictions, dans la façon dont tout est donné avec une forme de radicalité, tout est affirmé. D'ailleurs, c'est dans le choix qui a été fait, on me demande souvent pourquoi ça monte à ce point en tension. Mais c'est vrai que finalement, ce que j'ai gardé, c'est des gens qui affirment des choses beaucoup, qui sont. Enfin, voilà. Et je me dis que quand tout ça, toute cette énergie, tout ce désarroi traverse un même être, c'est comme un fil qui recevrait une forme de décharge électrique qui, au bout d'un moment, s'affaiblit, se fragilise. Et c'est un peu, moi, la relation poétique que j'ai construite entre la construction du pigeonnier, les barres, les sons, tout ça, et le corps de Famille, qui, je trouve, le représente assez bien, quoi. Quand je pense à ces potes-là, je vois Famille dans tout ce qu'il a, en même temps, de force, il a une forme de gentillesse dans l'œil, mais en même temps une forme de violence. On sent qu'il est débordé par quelque chose. C'était derrière tout ce projet de la troisième partie, il y avait ça. Il y avait l'idée de reconstruire cet état de fragilité, comme une façon aussi d'alerter sur ce qui sont, justement. Je parlais de ces évidemment, tous les gens issus de mon quartier qui ont 30 ans maintenant n'ont pas tous pris de la bras, n'ont pas tous fini dans un hôpital psychiatrique. Il y a plein de gens qui sont sortis, mais quand même, ça a produit quand même un nombre de personnes qui ont été complètement sacrifiées par ce système-là. Et ces personnes sacrifiées dont je voulais un peu parler, que je voulais mettre un peu au centre du projet.
Pour en revenir à la première question, à votre première intuition, Karim Belkacem, face à cette une de journal Libération, où vous voyez apparaître des visages de terroristes qui avaient perpétré certains attentats, et que vous étiez étonné de la ressemblance des personnes avec qui vous aviez grandi ou d'avec vous-même. Est-ce que, après avoir monté 23 rue de Couperin, et en le jouant, avez-vous, je sais pas, un semblant de réponse à cette intuition-là?
Pour moi, c'était juste important de le dire et de le redire et d'en reparler. Et justement, j'essaie d'organiser beaucoup de rencontres après le spectacle. Parce que moi, c'est fou, quoi. Parce que moi, ça m'a un peu sauté aux yeux quand justement j'ai commencé. Parce que c'est vraiment un travail que j'ai fait à ce moment-là, très très tôt. J'ai commencé à aller regarder d'où venait chaque personne, quelle était la vie de chacun. Parce que je me suis pas du tout dit, le fait qu'il ait passé 3 mois en Syrie, ça veut rien dire de sa vie, quoi. Genre, par rapport au fait qu'il ait passé 33 ans de sa vie dans un autre endroit, c'est quand même plus éloquent. Et que vraiment, quand tu regardes dans le détail, je crois même que je l'ai fait parce que je voulais organiser une espèce d'exposition, mais ça l'a pas fait, mais je voulais organiser une exposition des maquettes des cités HLM, des bâtiments d'enfance de ces gens-là. Et donc, j'ai commencé je dois avoir ça dans mon ordinateur, quoi. J'ai des photos comme ça de tous ces bâtiments, quoi. Et ça se ressemble énormément, quoi. C'est vraiment, tu vois, puis j'essaie de repérer où ça se situait par rapport au centre-ville. Je faisais vraiment une espèce d'observation architecturale de ces cas-là. Quand on me demande est-ce que votre projet, des fois dans les rencontres avec le public, est-ce que ça va changer quelque chose, j'ai pas du tout cette illusion-là. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Déjà, s'il y a 500 personnes qui bout à bout discutent les uns avec les autres dans les rencontres avec le public après le spectacle, moi ça me va. Hein. C'est pour moi, je m'attends pas à finir dans la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est pas le projet, quoi. Le projet, il est de faire la pièce. Je suis content d'avoir montré à des gens de mon quartier en octobre. c'était très important. Je suis content de l'avoir montré à Genève, à des gens qui connaissent pas grand chose à ce sujet-là, mais de juste, puis après de parler, quoi, d'inviter des gens comme Patrick Bouchain, comme Antoine Nechy, avec qui on a fait une rencontre, qui est quelqu'un, un ingénieur spécialisé de la gestion des animaux sauvages, mais qui a écrit un texte très important en architecture sur justement qu'est-ce que c'est que la banlieue, mais dans une approche un peu plus d'ingénieur liée aux animaux sauvages. Et ça, c'est hyper intéressant ce qu'il dit, si vous pouvez l'inviter, il est vraiment passionnant. Il est vraiment fascinant sur son approche, il a des vraies grandes idées en venant d'ailleurs. Et hier, par exemple, on était dans un centre pénitentiaire, ou des gens qui sont en réinsertion pour parler du projet, et voilà, il y avait une 7-8 personnes et juste de pas, il y avait Patrick Bouchain, moi et puis ces personnes, quoi, et juste de parler, juste de faire ça, c'est déjà ça change pas grand chose, mais pour moi rien n'a changé depuis cette époque-là, parce que concrètement, il faut envoyer 8 fois plus de CV quand tu viens d'Amiens Nord que quand tu viens d'Amiens Sud. Je crois pas que je dis une connerie en disant ça. Je sais même maintenant que les gens donnent des adresses à Amiens Sud pour être sûr d'être reçu en entretien. Donc, le problème existe encore. Donc, mais cette pièce, elle permet aussi d'attirer l'attention sur ce que ça a été.
Merci beaucoup, Karim Belkacem. On peut voir cette pièce jusqu'au 19 mai prochain au Théâtre de l'Athénée à Paris. Et si tous les programmateurs de France et de Navarre nous écoutent ce soir, on pourra la voir partout en tournée pendant au moins 3 ans.
Qui sait ?
Les yeux ne sont pas ici, il n'y a pas Dieu ici. Dans cette vallée d'étoiles mourantes, dans cette vallée creuse, cette mâchoire brisée de nos royaumes perdus, en cet ultime lieu de rencontre, nous tâtonnons ensemble, évitant de parler, rassemblés là sur cette plage du fleuve enflé, sans regard à moins que les yeux ne reparaissent, telle l'étoile perpétuelle, la rose aux mains pétales, du royaume crépusculaire de la mort, le seul espoir d'homme vide. Tournons autour du figuier, de barbarie, tournons autour du figuier avant que le jour se soit levé. Entre l'idée et la réalité, entre le mouvement et l'acte, tombe l'ombre. Car tien est le royaume. Entre la conception et la création, entre l'émotion et la réponse, tombe l'ombre. La vie est très longue, entre le désir et le spasme, entre la puissance et l'existence, entre l'essence et la descente, tombe l'ombre. Car tien est le royaume, car tien est, la vie est, car tien est. C'est ainsi que finit le monde, c'est ainsi que finit le monde, c'est ainsi que finit le monde. Pas sur un boom, sur un murmure.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture, quand vous voulez sur franceculture.fr et quand vous voulez si vous êtes abonné au podcast. Ce soir, au son, c'était Cédric Châtelu, à la réalisation Lise-Marie Paré, Romain de Bec-de-Lièvre à la lecture et à tout le reste, Jeanne Aléos à tout le reste et Corinne Amart.